VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, présidentielle américaine 2016 J-1, avec 9 meetings dont l'un prévu juste avant minuit. Donald Trump et Hillary Clinton mettent un point final ce lundi à une campagne présidentielle âprement disputée et à l'issue incertaine. Les sondages sont serrés, même s'ils donnent un léger avantage à la candidate démocrate, Jacques Aristide.
Dans la dernière ligne droite de la campagne, Hillary Clinton et Donald Trump n'arrêtent pas de labourer les États clés, dont l'Ohio, le New Hampshire, la Floride et le Nevada. Depuis plusieurs années, les États-Unis sont fortement divisés politiquement, avec des États acquis soit aux républicains ou aux démocrates. Le politologue Stephen Wayne de l'Université de Georgetown.
Dans beaucoup d'États, un parti a déjà une très grande avance et il n'y a pas donc lieu d'investir des moyens dans ces États au niveau présidentiel.
Cela laisse environ une douzaine d'États, dits clés ou en anglais swing states, où les candidats à la présidentielle passent la plupart de leur temps. L'expert Jeremy Mayer de l'université George Mason.
Dans nos campagnes présidentielles modernes, vous n'êtes présent que dans environ 12 États. La liste peut changer d'une année à l'autre, même si depuis les trois dernières années, elle est restée relativement stable.
Les États clés qui attirent le plus d'attention comprennent de grands États comme la Floride et l'Ohio et des plus petits comme la Caroline du Nord, le Nevada et le New Hampshire. Depuis l'élection de 1992 remportée par Bill Clinton, les démocrates ont généralement eu plus de succès dans la conquête des États clés, ce qui rend la tâche difficile pour Trump cette année. C'est du moins ce qu'estime l'analyste Austin Hart de l'American University.
He's got to win voters in Florida, Ohio, perhaps Colorado and Nevada.
Il doit remporter la Floride, l'Ohio et peut-être aussi le Colorado et le Nevada. Il doit consolider les choses en Pennsylvanie si possible. Il a donc un défi énorme à relever.
Au bout du compte, en fin de campagne, les candidats ne ciblent qu'un groupe d'électeurs dans une poignée d'États, selon Jennifer Lawless de l'American University.
La question désormais concerne les indépendants et il ne s'agit que d'un petit groupe d'indépendants. En fait, il est plus petit qu'on pense. C'est un petit groupe d'indépendants qui vivent dans les États clés. Nous parlons donc d'un très faible pourcentage de la population.
Dans les derniers sondages, Hillary Clinton mène au niveau national et dans plusieurs États, tandis que Donald Trump demeure compétitif dans des États indécis comme l'Ohio, la Floride et la Caroline du Nord.
Merci Jacques. 10 jours après l'avoir ouvert avec grand fracas, le FBI a refermé le dossier des courriels d'Hillary Clinton, redonnant à la candidate démocrate un nouvel élan avant d'aborder aujourd'hui l'ultime ligne droite de sa course à la Maison-Blanche contre Donald Trump, les deux principaux candidats à l'élection présidentielle de ce mardi passeront la journée donc à sillonner une dernière fois les États clés susceptibles de faire basculer le scrutin alors que les sondages témoignent d'une compétition serrée, quoique penchant en faveur de l'ex-secrétaire d'État. Le directeur du FBI, James Comey, a annoncé dimanche dans une lettre au Congrès que les enquêteurs fédéraux avaient travaillé jour et nuit pour achever l'examen de courriels récemment découverts et n'avaient trouvé aucune raison de modifier leur jugement de juillet dernier selon lequel Hillary Clinton n'est coupable d'aucune infraction susceptible de poursuite dans l'affaire de sa messagerie privée. Et puis Snapchat ou Skype, un danger pour la vie privée selon Amnesty International. L'ONG épingle ces deux réseaux sociaux qui n'ont pas mis en place les mesures élémentaires pour protéger la vie privée, mettant en danger les droits fondamentaux de leurs utilisateurs, selon elle. Julie Ouno d'Internet sans frontières confirme.
Sur le cas de Skype et Snapchat, c'est absolument vrai. Ces entreprises ne donnent d'informations sur précisément les données qui sont collectées, sur précisément qui sont les tiers avec qui ces données sont partagées, ne donnent d'informations claires sur comment récupérer les données qui ont été collectées entre-temps et surtout ne donnent pas vraiment d'informations sur si on décide de fermer son compte Skype ou Snapchat, est-ce que les données qui auront été récoltées pendant le temps où on a été utilisateur seront gardées par l'entreprise ou bien seront restituées dans leur entièreté à l'utilisateur. Et surtout, une question fondamentale aujourd'hui qui est celle du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire la capacité de ces différentes applications, de ces différents réseaux sociaux de messagerie à mettre en place des protocoles de chiffrement qui permettent que seul votre interlocuteur puisse lire l'intérieur de vos conversations. Aucune de ces entreprises, aussi bien Skype que Snapchat, ne le met en place, ce qui évidemment est assez surprenant ces dernières années.
Julie Owono d'Internet sans frontières.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, 28 victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 80 morts à la fin du mois d'octobre ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Combrail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance, négligence et omission. Maître Guy-Olivier Moteng est membre du collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident.
Cameroun, vous avez certainement écouté comme tout le monde que ils offrent en ce moment 1 500 000 francs aux familles des victimes décédées comme frais funéraires. Pour nous, c'est assez insuffisant. Mais nous travaillons pour que toutes les personnes qui ont été impliquées dans cet accident en tant que victimes puissent avoir la juste réparation, une réparation intégrale. Parce que, dites-vous bien qu'il n'y a pas que les morts, il n'y a pas que les blessés. Il y a des personnes qui sont traumatisées à vie, mais il y a des personnes également qui sont disparues.
Maître Guy-Olivier Moteng, membre du comité du collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident de Seka au Cameroun. Au Burkina Faso, on peut à nouveau acheter des parcelles de terrain dans le pays après une interruption des activités de commercialisation sous la transition politique. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains reprend du service avec un accent sur la transparence. Claude Aubin Tapsoba est le directeur général de la Sonature.
C'est un pari pour nous et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du personnel de la Sonature a compris que Sonature doit donner un autre visage. Donc nous avons fait le choix et nous avons mis des garde-fous. Nous avons d'abord changé les formulaires et aucun formulaire ne sera enregistré deux fois parce que les formulaires sont numérotés et le logiciel est configuré pour enregistrer un seul numéro. Ceux qui viennent enregistrer également leur demande ne pourront pas le faire pour deux demandes. Chacun passera pour enregistrer une demande et nous réagissons exactement de la même façon pour tous ceux qui nous sollicitent. Ensuite, je crois qu'il y a un gros problème qui existait aussi dans la sécurité du logiciel informatique, où les gens pouvaient, par des manipulations non maîtrisées, décrocher des parcelles qui avaient été attribuées, qui retombent dans le patrimoine qui était réattribué. Donc double attribution, source de conflit entre des gens. Mais nous pensons que nous sommes aujourd'hui en état de recommencer à faire une vente avec un peu de sérénité, un peu de transparence et puis un peu d'équité.
Claude Tapsoba Aubin, directeur général de la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains au Burkina Faso. Nous allons au Mali. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque d'un convoi de l'ONU qui a fait un mort et 7 blessés, dont 3 grièvement parmi les casques bleus togolais dimanche près de Douenza, dans le centre du pays. 2 civils maliens ont également été tués, selon un communiqué de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, dans cette attaque survenue alors que le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, était au Mali pour évoquer le possible déploiement de casques bleus canadiens. Le mouvement islamiste en Sardine a revendiqué dans un communiqué cette attaque contre la base malienne de Gourma Raous, affirmant avoir détruit 6 véhicules militaires.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Et l'Égypte ne recevra pas de pétrole de la compagnie saoudienne Aramco en novembre pour le 2e mois consécutif et doit donc à nouveau s'approvisionner sur les marchés internationaux. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable du ministère du pétrole. Le géant pétrolier saoudien avait décidé de ne plus approvisionner l'Égypte en octobre, au moment où les deux pays avaient fait éclater leur désaccord au sujet de la Syrie. Le Caire s'est rapproché de la Russie, allié du président syrien Bachar al-Assad, tandis que Riyad soutient des groupes d'opposition au régime syrien. Et puis, pour terminer, un citoyen américain qui a été détenu pendant plus d'un an et demi par les miliciens houthis au Yémen a été libéré, a déclaré au dimanche le secrétaire d'État John Kerry. Walid Youssouf Pix Lukman a été libéré avec l'aide d'Obama, a précisé le patron de la diplomatie américaine, ajoutant que son équipe, lui, s'était préoccupé de ce cas dès le départ. Jean-Roger Billon, le prochain journal vous sera présenté par Francis Henry. je vous dis à bientôt.
Sur VOA Afrique.